Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La première ministre britannique Theresa May a peut-être abattu sa dernière carte hier soir en informant les parlementaires de son parti qu'elle démissionnerait si l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles était enfin ratifié par la Chambre des communes. À ce stade, rien n'est encore acquis. Un nouveau vote, le troisième, pourrait avoir lieu demain.
Dans votre journal également, le pétrolier ravitailleur détourné par des migrants secourus en mer et qui ne voulait pas être reconduit en Libye est arrivé ce matin à Malte.
Oui, l'équipage comme les rescapés doivent être confiés à la police afin de déterminer ce qui s'est passé à bord et les responsabilités. Veillée d'armes en Algérie où les dirigeants seront demain à l'occasion d'une nouvelle journée test de grandes manifestations. Si leur proposition d'écarter le président Bouteflika toujours au pouvoir mais totalement isolé suffiront à calmer la contestation.
En France, le groupe de grande distribution Carrefour compte supprimer plus de 1200 postes dans ses hypermarchés cette année sans départ contraint, assure la direction.
L'association Respire dresse le premier inventaire des établissements d'Île-de-France en fonction des polluants auxquels les enfants sont exposés. Le constat est à alarmant. Les niveaux de pollution de l'air dépasseraient les plafonds sanitaires recommandés dans près d'un quart des écoles, collèges et lycées. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, président de la société d'analyse et de conseil Pollingvox. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment mettre en place une égalité sans condition, sans qu'il faille démontrer une plus-value à avoir plus de femmes dans la vie politique, dans le monde du travail aussi. On en parlera avec notre invité, la politologue et Jeanne Sénac, qui sera donc avec nous pour la grande table des idées.
Merci, à tout à l'heure. Au terme d'une nouvelle folle journée hier à Londres, jamais le chemin vers une sortie du Royaume-Uni de l'UE n'aura autant ressemblé à une voie sans issue. Par 8 fois, les députés britanniques ont rejeté l'une après l'autre toutes les options destinées à trouver une solution alternative à l'accord de retrait négocié par la Première ministre. Quant à l'ultime carte abattue par Theresa May, celle d'offrir sa tête sur un plateau en échange d'un vote des députés en faveur de l'accord conclu avec Bruxelles, son sacrifice ne devrait a priori rien y changer. Même si plusieurs députés eurosceptiques ont annoncé qu'ils soutiendraient finalement l'accord, leur volte-face ne devrait pas suffire, en particulier parce que le parti unioniste nord-irlandais, dont le soutien est crucial, a d'ores et déjà déclaré qu'il s'opposerait une nouvelle fois au plan négocié par Theresa May. Boris Johnson, figure emblématique des Brexit, estime lui ce matin que l'accord est mort. Dès lors, l'équilibre parlementaire pourrait se jouer sur les rebelles du parti travailliste. Ils sont en effet quelques dizaines à vouloir encore que le Brexit ait lieu, notamment pour respecter le vote démocratique des Britanniques. Reste à savoir s'ils oseront défier les consignes de leur leader. Alors la réponse à ce vrai faux suspense ne devrait plus trop tarder puisque les parlementaires britanniques pourraient être appelés dès demain et pour la troisième fois donc à ratifier l'accord de retrait. Seule certitude, dans les rues de Londres et quel que soit son camp, Theresa May semble désormais faire l'unanimité contre elle. Reportage dans les rues de la capitale signé de notre envoyé spécial Louise Baudet.
Theresa May is a traitor.
Union Jack d'un côté, drapeau européen de l'autre, ils se côtoient mais font semblant de s'ignorer. Côté Brexit, Amy, qui vit sur la côte sud, n'a que faire de la promesse de Theresa May.
C'est fait pour les encourager à voter son accord de sortie. C'est une tactique écœurante. Elle devrait démissionner. Et pas de deal.
Réaction similaire côté Remain.
Elle doit partir, mais en embarquant son accord avec elle.
Ken habite dans la grande banlieue de Londres. Il ne rate pas une manifestation anti-Brexit.
Theresa May dirait n'importe quoi pour aller dans le sens du vent. Elle trompe son monde, elle est nulle, elle est délirante.
Ici, la première ministre fait l'unanimité contre elle, à de très rares exceptions près. Jamie, de passage à Londres avant de retourner chez lui dans le nord du pays, salue sa grandeur d'âme.
C'est une femme très honorable, elle a le pire job qui soit. Elle voit que la seule solution pour permettre à son parti de s'en sortir, c'est d'offrir sa démission.
Alors ce sacrifice va-t-il servir à quelque chose?
Il lui faut encore le soutien des unionistes nord-irlandais et ils ne vont pas la soutenir.
Ça n'est pas fait et c'est une nouvelle longue journée de tractation qui s'annonce.
Ce ne sont pas des naufragés mais des pirates. C'est par ces mots que le tonitruant ministre italien de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, avait donné l'alerte cette semaine après qu'un pétrolier qui avait secouru une centaine de migrants au large de la Libye avait été dérouté vers l'Europe. Et ce matin, Le navire est finalement arrivé à Malte après qu'un commando de la marine maltaise en a repris le contrôle dans la nuit. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors l'histoire commence mardi dernier lorsque ce pétrolier ravitailleur décide de venir au secours de 108 migrants en détresse.
Oui, les faits sont simples. Des migrants ont été secourus mardi soir dans les eaux internationales par un pétrolier ravitailleur. Ils étaient donc 108, 77 hommes et 31 femmes et enfants. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans cette partie de la Méditerranée. Une fois le sauvetage terminé, le capitaine du bateau a mis le cap sur la Libye. C'est normal, il faut savoir que ce sont les Libyens qui ont pour mission de coordonner ces opérations de sauvetage. Mais voilà, à 6000 nautiques de l'arrivée, le bateau a subitement changé de direction, cap au nord, vers l'Italie et Malte plus précisément. Il faut dire qu'entre-temps, les naufragés ont réussi à prendre le contrôle du bateau avec pour objectif ne surtout pas revenir en arrière, c'est-à-dire de là où ils sont partis, Tripoli, car ce retour à la case départ est souvent synonyme d'horreur. La semaine dernière, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme de l'ONU avait évoqué les tortures et viols subis par de nombreux migrants en Libye et appelé l'Union européenne à revoir son soutien aux gardes-côtes libyens. Ce matin donc, fin de l'aventure, le bateau est arrivé à Malte où il a été pris en charge par les autorités, fin de la crise humanitaire, si on peut dire, mais pas politique, puisqu'elle remet le problème des réfugiés à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, est immédiatement monté au créneau en expliquant que les réfugiés sont pour lui, comme vous l'avez dit, en réalité des pirates et qu'il n'est pas question qu'ils posent le pied en Italie. Une nouvelle fois, c'est donc à Malte que s'achève le parcours des réfugiés. On se souvient en effet que l'Aquarius ou encore le Lifeline, bateau appartenant aux ONG françaises et allemandes, ont eux aussi trouvé refuge à La Valette.
Merci. Nathanaël Charbonnier. Monsanto reconnu coupable de négligence pour n'avoir rien fait pour prévenir des dangers possibles de son produit phare, le glyphosate, principe actif de son non moins tristement célèbre Roundup. Un jury californien a condamné hier la société agrochimique à verser près de 81 millions de dollars à un retraité américain souffrant d'un cancer qu'il attribue au désherbant vedette du groupe. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait discuter prochainement de la souveraineté sur le plateau du Golan, la Syrie qui revendique ce territoire a demandé une réunion d'urgence. La question évidemment ressurgit brusquement avec la décision des États-Unis de reconnaître en début de semaine la souveraineté de l'État hébreu sur ce territoire occupé. Pour l'heure, il n'y a aucune certitude que la réunion aura bien lieu. En revanche, sur le terrain, les conséquences de la décision américaine sont d'ores et déjà visibles. Hier soir, la défense syrienne a repoussé une attaque aérienne israélienne près d'Alep. Et puis concernant toujours ce litige, outre les frictions entre le gouvernement syrien et l'État hébreu, le président libanais s'est lui rendu pour la première fois en visite officielle à Moscou cette semaine pour y parler notamment du Golan, mais pas seulement, puisque le Liban souhaiterait que la Russie s'ingère dans un autre conflit territorial, celui du bassin levantin à l'extrême est de la mer Méditerranée où se trouvent d'importants gisements de gaz et de pétrole, objet de dissensions avec Israël. En Algérie, après l'armée, hier c'était au tour du Front de Libération Nationale au pouvoir depuis l'indépendance du pays d'annoncer non seulement soutenir la proposition du chef d'état-major de recourir à l'article 102 de la Constitution pour écarter le président, mais plus encore de réclamer tout simplement la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis à cela, on pourrait encore ajouter d'autres repositionnements stratégiques. C'est le cas notamment du Rassemblement National Démocratique, partenaire pourtant indéfectible jusque-là de la coalition au pouvoir, mais aussi du patron de la principale centrale syndicale, zélateur enthousiaste de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat et qui à son tour a donc finalement décidé d'appuyer l'appel lancé à écarter le chef de l'État. Alors tous ces revirements de la part de cercles jugés proches du pouvoir témoignent-ils d'un soutien sincère à la contestation populaire ou davantage d'une ruse destinée à sauver leur peau chez les militants du RAJ, le Rassemblement Action Jeunesse? On pencherait plutôt pour la seconde option, comme a pu le constater notre envoyé spécial à Alger, Kaina Nazir.
Abdel Wahab Fersaoui rirait presque de ces revirements politiques qui se succèdent si l'avenir du pays n'était pas en jeu. Pour le président du RAJ, si le souhait de l'armée d'appliquer l'article 102 est une manœuvre machiavélique pour garder le système en place, le FLN et le RND ont les mêmes aspirations.
C'est aussi tactique de leur part. C'est la ruse, parce qu'ils savent très bien que Bouteflika aujourd'hui n'est pas un bon cheval de bataille. Donc, il est rejeté par la société, donc ils essayent de se montrer à l'opinion publique que voilà, même nous, on se démarque de Bouteflika. Donc, ils sont prêts à sacrifier Bouteflika pour sauver le système.
Dans le petit studio radio de l'association, Yazid travaille sur le podcast qui sera diffusé sur la web radio. Le jeune militant explique qu'il n'est pas dupe de la stratégie des hommes du président.
Ces partis politiques et ces gens-là sont en train d'essayer de gagner la société civile et de gagner l'opinion des gens pour avoir une autre place dès que les revendications du peuple terminent.
Pour Larbi, le peuple ne doit pas se laisser amadouer.
J'alerte l'opinion publique sur cette énième mascarade. Justement pour essouffler le mouvement. Il faut se concentrer sur la révolution et se mobiliser et donner plus de sens à cette révolution.
Et Ourache, comme tous les jeudis, au programme aujourd'hui la préparation de la grande manifestation du vendredi.
Pour le troisième jour consécutif, le Venezuela est resté paralysé hier par une nouvelle méga panne d'électricité suscitant angoisse et colère parmi les habitants. Appelé une nouvelle fois par le chef de l'opposition Juan Guaido à manifester samedi prochain. Et puis outre le manque de courant, la présence de troupes russes sur le sol vénézuélien électrise aussi le climat politique. L'opposition dénonce une ingérence à la souveraineté nationale. Réponse ce matin de Moscou, la Russie, contrairement à Washington, ne menace personne. Fin de citation. Dans une enseigne où les slogans font floresse de j'optimisme à on a tous droit au meilleur, nul doute que les représentants syndicaux de l'enseigne Carrefour n'auront guère de mal à railler le positivisme des messages publicitaires censés promouvoir le groupe, lesquels ont parfois tendance aussi à se muer en énigmes. Hier, la direction a annoncé la suppression de plus de 1200 postes cette année dans ces hypermarchés français. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors en début d'année déjà, le groupe de grande distribution avait présenté aux partenaires sociaux un plan de transformation passant notamment par un désengagement progressif de l'entreprise dans les rayons non alimentaires déficitaires.
Exactement, les rayons les plus touchés seront la bijouterie, le multimédia, l'électroménager ou encore les caisses des stations-service, sans compter les suppressions de postes dans l'encadrement et les fonctions administratives. Le tout, vous l'avez dit, sans départ contraint grâce à la signature d'un accord de rupture conventionnelle collective entre la direction et les syndicats. C'est une première pour le groupe. Ce genre d'accord permet de mettre en place des départs volontaires sans justification économique. Mais les syndicats restent prudents. La CFDT, par exemple, se dit sceptique sur l'aspect volontaire d'un départ quand le poste en question est tout bonnement supprimé, comme un rayon bijouterie par exemple. De son côté, FO reconnaît que vu la situation des hypermarchés Carrefour, l'inaction serait pire que les projets à venir. Mais le premier syndicat du groupe, lui aussi, sera très vigilant sur les conditions de départ, les formations ou les reclassements proposés. Vigilant aussi pour les salariés qui resteront, car le changement de stratégie de Carrefour est radical. Il a été initié il y a un peu plus d'un an pour prendre le virage à la fois du bio et du commerce en ligne, pour lequel l'enseigne est très en retard. Le calendrier est donc très serré, la direction veut aller vite et boucler les négociations d'ici la fin du mois de mai avec des premiers départs effectifs dès cet été.
Merci Laura Dulieu. Daimler a lui annoncé ce matin l'arrêt dès 2022 de la production de ses voitures Smart sur son site historique de Hambach dans l'est de la France. Le constructeur automobile allemand a précisé qu'il développerait en Chine la prochaine génération de ses petites citadines. Quant à l'usine en Moselle, elle devrait construire prochainement une voiture électrique haut de gamme. Quoi qu'il en soit, le constructeur assure qu'aucun emploi n'est aujourd'hui menacé par ce changement de cap. La population française comptera trois fois plus de personnes de plus de 85 ans en 2050. Et pour faire face à ce choc démographique, comprenez mieux prendre en charge le vieillissement massif. Un rapport très attendu a été remis ce matin au gouvernement. Alors que faut-il retenir des propositions censées améliorer la prise en charge des plus âgés? Les précisions de Tarach Legal.
Le rapport propose de dépenser d'ici 2030 1,6% de la richesse nationale en faveur des personnes âgées dépendantes qui seront 20 ans plus tard 2 millions contre 1,2 million aujourd'hui. Alors ça reviendra à augmenter d'un tiers les dépenses publiques qui leur sont consacrées pour l'instant. À quoi doivent servir ces sommes? Le rapport Libault fait 10 propositions dont la première priorité est de rendre plus attractifs les métiers du grand âge. D'abord, il faut augmenter les effectifs. En EHPAD, où souvent les personnes âgées n'ont droit qu'à une douche par semaine, et encore c'est une bonne moyenne, où des aides-soignants sont souvent seuls pour lever, habiller 15 résidents en moins de 3 heures, et bien dans ces établissements, il faut, dit Dominique Libault, augmenter de 25% les effectifs. Les directeurs d'établissements, notons au passage, voudraient qu'on les double. Enfin, ça ferait tout de même, selon le rapport, 80 000 embauches d'ici 5 ans. Il faut aussi attirer plus de jeunes dans cette filière. Le nombre d'étudiants en école d'aides-soignants a presque chuté de moitié. Revaloriser donc les salaires en EHPAD, comme à domicile, domicile où travaillent quand même 830 000 employés. Il faut fixer un salaire plancher à domicile ainsi qu'un temps minimal à passer auprès de la personne âgée, dit le rapport. Il parle aussi d'investir dans le bâti pour moderniser les EHPAD et de diminuer le reste à charge des familles. En moyenne, après avoir touché leurs aides, les seniors dépensent 1 850 euros chaque mois et leur retraite ne couvre pas cette somme. Il va donc falloir revoir le modèle de financement. Alors beaucoup de monde ce matin dans la salle pour écouter les participants aux 10 tables rondes qui ont nourri depuis plusieurs mois les propositions. La ministre doit faire une synthèse.
Eux sont jeunes et pourtant pas moins exposés. Des milliers d'enfants seraient actuellement en danger, touchés par la pollution au dioxyde d'azote aux abords des lieux qui les accueillent, crèches, écoles, collèges et lycées. Au total, un quart des établissements qui accueillent des enfants à Marseille et en Ile-de-France seraient concernés. Voilà ce qui ressort des rapports de l'ONG Greenpeace et de l'association Respire publiés aujourd'hui. Alors la situation s'est malgré tout améliorée depuis 2012 où les deux tiers des établissements de la capitale étaient concernés. Mais pour Olivier Blon, le président de l'association Respire, il reste encore beaucoup à faire, d'autant que les enfants sont donc les premières victimes de ce type de pollution, il le dit à Bastien Roch.
Les enfants sont plus encore que les adultes vulnérables à la pollution de l'air. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de les protéger. Ils sont plus petits, donc plus bas, plus proches des pots d'échappement. Ils respirent plus vite et leur système respiratoire n'est pas arrivé à maturation. Donc il est plus vulnérable à la pollution. Il y a plein de conséquences sanitaires pour les enfants, que ce soit évidemment les crises d'asthme, mais aussi ils vont diminuer leur capacité respiratoire quand ils sont plus grands. Il y a des problèmes cognitifs. Il y a tout un ensemble de conséquences qui finalement mettent en danger non seulement leur santé, mais leur avenir. Les solutions, elles sont dans les mains des parents quand ils réfléchissent à comment ils se déplacent. Elles sont dans les mains des maires quand ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent intervenir sur la circulation dans leur ville et tout particulièrement autour des établissements. Et elles sont dans les mains encore plus haut des départements ou de l'État quand ils décident des normes légales à mettre en place pour protéger les enfants et pour réguler la circulation des véhicules les plus polluants.
Voilà, Olivier Blon, président de l'association Respire, il répondait à Bastien Roch. Du fait des ambitions électorales de trois de ses ministres, Nathalie Loiseau pour les européennes, mais aussi Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, désormais rivaux pour la mairie de Paris, Emmanuel Macron va devoir procéder à un nouveau remaniement, ou plus exactement un énième, puisque depuis le début de son quinquennat, ce sont au total pas moins de 10 membres du gouvernement qui auront ainsi pris la porte volontairement ou non. Les remplaçants devraient être nommés d'ici lundi prochain. Date du prochain Conseil des ministres. Et pour évoquer cette actualité politique française, invité aujourd'hui de la rédaction, Jérôme Sainte-Marie, politologue sondeur, président de la société d'analyse et de conseil Polling-Vox. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Alors j'évoquais à l'instant le nouveau mini-remaniement en cours et qui ne fait que confirmer en somme une concentration de départ inédite en début de mandat. Comment l'interprétez-vous? Faut-il y voir la démonstration que l'ambition personnelle compte parfois peut-être davantage que son engagement au sein d'une équipe gouvernementale? Ou bien faut-il y voir une marque de défiance à l'égard du chef de l'État qui depuis plusieurs semaines voit également de plus en plus de membres du cabinet quitter l'Élysée?
Oui, effectivement, ces départs sont fréquents et ce sont des départs qui sont largement subis par le pouvoir. C'est donc parfois les remaniements, ça peut être préparé pour justement envoyer un signal fort à l'opinion. Là non, c'est quelque chose que le président doit assumer. Alors ce n'est pas aussi grave quand même, ces quelques départs qu'on nous annonce, que les deux départs très importants qui ont été à un moment décisif de la crise politique que nous connaissons désormais. C'est le départ de Nicolas Hulot, à la fin de l'été, et puis le départ surtout du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, deux poids lourds, la personnalité la plus populaire, Nicolas Hulot, tout cela. Là, c'était un vrai problème et toute la France avait pu mesurer que le président de la République n'y était pas pour grand-chose. Là, c'est quand même beaucoup plus des ajustements techniques. Et c'est les départs des trois des ministres ne sont pas très, à mon avis, trop préjudiciables. Ce qui est plus embêtant, même si l'opinion ne le perçoit un peu moins, c'est le départ des conseillers. On a eu Sylvain Faure qui est parti, donc effectivement, on est maintenant Monsieur Emilien qui est parti. Ça donne l'impression à ceux qui suivent ça qu'il y a une crise profonde autour du chef de l'État, largement liée au développement, pour ne pas dire aux métastases, de l'affaire Benalla dans les cercles du pouvoir.
Est-ce qu'il faut aussi se dire que ce président gouverne tout seul?
Ça, dès le départ, ça a été un mode de pouvoir très autoritaire. Dès la campagne, d'ailleurs, vous avez une personnalité écrasante qui a pris soin. Je pense que c'est assez délibéré, de s'entourer de personnes ayant un poids politique parfois assez relatif. Il y a quelques-unes, hein, personnalités de ce genre, fortes, comme Gérard Collomb précisément, dont on a parlé. Mais pour le reste, c'est un modèle managérial, si j'ose dire, qui aime bien concentrer tous les pouvoirs sur une personne, n'avoir personne pour faire de l'ombre. Ça pose un tout petit problème, c'est que du coup, ça a fait un grand vide. Et toutes les personnes à qui j'en parle, effectivement, témoignent du fait que il y a peut-être un tout petit problème. On a parlé de problème de politique managériale. Là, il y a un petit problème de ressources humaines désormais.
On l'a vu aussi avec le choix de la tête de liste pour les européennes. Ça n'a pas été facile, manifestement, du côté de la majorité. Finalement, c'est Nathalie Loiseau qui n'est pas une figure très très connue du grand public. On nous annonce malgré tout un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour ces européennes. En marche, Rassemblement National. Selon vous, la droite LR peut-elle se faire une place dans ce match?
Alors, ces dernières semaines ont été marquées par une remontée de la liste LR, de la liste dirigée par François-Xavier Bellamy, qui a gagné en moyenne, j'ai regardé les différents instituts, 2 points. Mais c'est pas énorme, hein. On arrive, si vous voulez, pour les plus hautes mesures actuellement, celle de l'IFOP, je crois, à 14%. Pour la grande liste de la droite française qui contrôle, il faut le rappeler, une majorité des départements et des villes de plus de 30 000 habitants.
Mais qui a l'air d'avoir un espace réduit finalement entre
alors,
LREM et LREM.
Ils essayent justement. Alors ils ont été. Il y a une contradiction de fond, c'est que vous avez l'espace du libéralisme et de l'européisme qui a été occupé par La République En Marche. Mais ça leur laissait encore quand même un certain espace. Et puis il y a eu le phénomène des Gilets jaunes qui a fait que les aspirations à l'ordre public, qui sont quand même un élément très important du vote à droite, eh bien cette fonction du parti de l'ordre a été occupée à son tour par La République En Marche. Sauf que le phénomène des Gilets jaunes, c'est en réalité plutôt atténué. Vous avez par ailleurs des problèmes de maintien de l'ordre, justement. Donc ce qui profitait, les désordres qui profitaient d'abord au pouvoir, leur perpétuation finit par l'affaiblir. Et donc on voit bien que cette formule, la formule Bellamy, semble prospérer. Quelle est cette formule en quelques mots? C'est l'idée de dire qu'on peut avoir le libéralisme économique, comme avec La République En Marche, mais la droite vous donne en plus le conservatisme moral et sociétal. Alors que La République En Marche a dit, bon, très bien, nous, c'est le libéralisme intégré. C'est libéral-libertaire, ça c'est assez clair. Là, c'est l'idée qu'il peut y avoir, on peut avoir un libéralisme sans avoir l'autre. C'est totalement contradictoire avec les idées de Jean-Claude Michéa, par exemple, mais en tout cas, ça peut être une espérance pour une bonne partie du peuple de droite.
Avant d'en venir au sujet des Gilets jaunes, un dernier mot sur cette campagne pour les européennes. L'environnement s'invite dans le discours de tous les partis politiques, plus personne ne se permet de faire l'impasse. Mais finalement, quand tout le monde en parle, est-ce que l'enjeu n'est pas dilué?
Les gens parlent beaucoup, enfin les têtes de liste, d'environnement aussi, parce que c'est un thème qui prospère généralement lors des élections européennes. Alors c'est peut-être un peu désagréable à entendre, mais ce que je vais dire, mais c'est comme ce sont des élections qui sont considérées comme des élections intermédiaires, donc pour dire les choses clairement, des élections de second ordre dans l'esprit des Français. Il y a moitié moins d'ailleurs de gens qui vont voter aux élections européennes qu'à l'élection présidentielle. La dernière élection présidentielle, on a à peu près 79% de participation. Les dernières élections européennes, on avait 42% de participation et il semblerait que ça va se passer comme ça. Les élections, le thème écologique étant très présent chez les Français, mais toujours en deuxième ou troisième position, eh bien, ces élections qui sont de second ordre se prêtent admirablement à exploiter ce sujet-là. C'est en quelque sorte le supplément d'âme de la vie politique française.
Jérôme Sainte-Marie, on est jeudi, après-demain, a priori, 20e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Il en est où ce mouvement? Il va vers sa fin?
Oh bon, ça serait extrêmement imprudent de pronostiquer la fin du mouvement ou du phénomène des Gilets jaunes. On s'y était un peu risqué à la fin de l'année 2018 et puis le mouvement est reparti en janvier. On a par ailleurs un soutien qui est devenu minoritaire dans le pays, mais il y a différentes mesures qui existent, mais grosso modo, vous avez à peu près 45% des gens qui continuent à soutenir le mouvement et de plus en plus de personnes qui s'y opposent, 35%. Enfin, 45%, c'est énorme. C'est énorme et surtout que le mouvement a connu toute une série de crises, a été attaqué sur toutes ses facettes, parfois très violemment. Donc c'est un mouvement qui perdure. Il a contre lui un peu la lassitude des Français, il a contre lui aussi l'intensité des mesures de répression policière et surtout judiciaire qui dissuadent beaucoup, notamment la catégorie populaire, de gens de se déplacer. Mais ce que ce mouvement a révélé, ce que fait ce phénomène a révélé, à mon avis, ne va pas retomber tout de suite.
En quelques mots, à votre avis, comment on sort de tout cela?
Ce qu'il faudrait à un moment donné, si vous voulez, pour que le gouvernement puisse en sortir, c'est qu'il puisse proclamer des résultats économiques. des résultats importants sur le front du chômage, des résultats sur le pouvoir d'achat. Il semblerait pas que ce soit le cas. Par ailleurs, le gouvernement est bien attaché à appliquer son programme et à mener toutes les réformes possibles et imaginables dans un cadre européen. Donc pour moi, tout ça fait qu'à mon avis, on ne sortira pas de cette ambiance de très forte conflictualité sociale dans le pays et cette forme d'opposition de deux blocs principaux sur une base beaucoup plus désormais sociologique que politique.
Merci Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, président, je le rappelle, de la société d'analyse et de conseil PollingVox. Et merci également à Rosalie Lafarge. On termine avec un mot rapide de météo, à l'exception d'un ciel nuageux de la Normandie à la frontière belge. La journée sera globalement ensoleillée. Quant aux températures, elles varieront entre 13 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.